Paris. Bonjour, merci à tous d'être venus pour cette 72e rentrée du Cercle Junior. Y a-t-il des annonces? Ce sont les Colette, il y a des annonces à faire?
T'as pas d'annonces à faire.
Bien. Moi j'en ai deux ou trois, je prépare en ce moment deux ou trois petits colloques. L'un le 22 novembre à la mairie du 5e arrondissement sur Jacques Oliberti. Le deuxième, le 6 décembre à la maison Victor Hugo. On va essayer de faire une petite liaison entre Victor Hugo et Jacques Oliberti encore une fois. Et pour en terminer avec Oliberti, le 8 janvier au Théâtre National de Nice, il y aura des lectures de Jacques Oliberti. Terminé sur Oliberti. Bien, on passe tout de suite donc à notre sujet du jour. Et j'ai retenu ce vers notamment. Chaque soir, je vais à ma rencontre à reculons. C'est un vers de Leonardo Sisgali, qui est à peu près inconnu, je crois, et c'est pour ça que j'ai demandé à Fabien Fabrice de venir nous le présenter. Nous connaissons un peu Fabien Fabrice, puisqu'il est venu déjà présenter Yannis Ritsos. Je rappelle qu'il est né en Italie méridionale, en Basilicate, qu'il a poursuivi sa formation à Rome, près des vestiges antiques, et il devient lui-même ingénieur. On verra donc le rapport avec Sisgali. Il a achevé ses études à Athènes après une thèse sur la restauration des monuments de l'Acropole. Et maintenant, il vit et travaille à Paris. Et il s'intéresse, comme dilettante, dit-il, à la philosophie grecque. Il a traduit en italien la Prudence chez Aristote, de Pierre Auvinc. Il s'intéresse aussi à la littérature grecque, avec une brève étude sur les traductions philosophiques de Georges Seferis, à la littérature italienne, en particulier au poète Leonardo Sisgali, avec quelques articles d'exposition et traductions. Et enfin, je vous rappelle qu'il a publié « J'ai du ciel et de l'eau », traduction chez Bruno Doucet de Yannis Ritsos. Je lui laisse la parole.
Merci, merci beaucoup, merci à vous tous d'être ici ce soir, toutes et tous. Je remercie le Cercle Alienor qui me fait encore une fois l'honneur et prend le risque de m'inviter dans ces rencontres. Je suis vraiment très très content. Je veux remercier aussi, permettez-moi cette première formalité, la Fondazione Leonardo Sisgali qui a œuvré pour nous soutenir d'un point de vue de parrainage. Donc cette rencontre est parrainée par la Fondazione Leonardo Sisgali qui s'occupe de la mémoire du poète. Je veux énormément remercier Biagio Russo, Luigi Benedicci, son fondateur respectivement et son président qui ont encouragé cette rencontre. Eh bien, je vais commencer par quelque chose d'inédit. Avec Leonardo Sisgali, vous le verrez, quand Bernard m'a proposé de venir faire cette rencontre, j'étais très content. Immédiatement après, il subitait un sens d'égarement, voire d'inquiétude, vis-à-vis de l'ampleur, vous voyez, du personnage Sisgali et des différentes facettes qui me tient à cœur de vous retranscrire et de vous transmettre cet après-midi. Je ne sais pas si je réussirai, j'irai par approximation successive. Alors je commence par quelque chose d'inhabituel. Merci. Je commence par cela. Je vous fais voir cette image, je ne sais pas si tout le monde arrive à la voir correctement. Vous l'avez reproduite aussi à la fin du petit dépliant que j'ai laissé sous le banc. Eh bien, merci, je cherche la télé comme ça. Celle que vous voyez, c'est une publicité. On imagine d'être dans les rues de Milan ou de Turin, de Naples, dans les années 50 de l'après-guerre. Et c'est une publicité d'une machine à écrire. Et là, effectivement, Olivetti Studio 44, peut-être quelqu'un d'entre vous se souvient et connaît le nom de la marque italienne, on pourrait se demander quelle est la liaison. Qu'y a-t-il de faire? Où est la machine à écrire? On ne la voit même pas. Eh bien, qu'est-ce que c'est le message? Alors ça, c'est une idée de Sisgali qui a été réalisée par des graphistes, mais qui était due à sa propre invention, à sa propre idée. Sisgali nous dit, regarde, Bado, regarde passant, ne t'arrête pas à l'image en tant que telle. Je veux te inviter à réfléchir, à parcourir avec moi la trame de ces messages. Pourquoi c'est la publicité d'une machine à écrire? Eh bien, car la machine à écrire rend superflu, l'encrier et les stylos à l'ancienne. Et donc, on peut en faire de l'encrier maintenant à l'usage poétique. Vous voyez, là c'est l'image qui vous donne en quelques secondes une idée de comment Sinis Gall traite et imagine la communication. On le verra, les rapports avec le monde de l'industrie. On pourrait se demander qu'est-ce qu'il fait un poète dans la publicité. Et aussi sa façon de regarder les messages de la communication poétique. Et j'ai choisi cette image parce que nous verrons, on se recroise dans la figure de Sinis Gall, qui est avant tout évidemment un poète, plusieurs aspects. L'un de ceux-là que vous avez vu, c'est celui de la communication, mais évidemment interprété avec une modernité extraordinaire, une publicité où on ne voit même pas l'image de la chose dont on fait la publicité, c'est quelque chose de très moderne. La première version, c'est que je vous ai montré en couleur, mais la première version de ce manifeste, de cette affiche, date de 1938. Donc, Sinis Gall fait converger sur sa figure et sur son parcours plusieurs épisodes, plusieurs moments, plusieurs facettes. Et je vous propose ce soir de reparcourir un petit peu la vie et la biographie, qui, vous verrez, comme toujours, sont à la base de son inspiration poétique. Alors, Leonardo Sinis Gall est né dans un petit village de l'Italie du Sud, dans la Basilicate. Là aussi, je fais recours un petit peu à quelques raffigurations, je vous les ferai passer. Vous voyez ici, pointé par la flèche, et je vous ferai passer la carte. C'est un petit village d'une région qui est parmi les plus pauvres de l'Italie. En 1908, nous sommes. Sa famille, c'est une famille d'artisans, des petits artisans, des paysans. Et c'est une région qui se trouve, vous le voyez, au centre de la botte, vous connaissez le profil de l'Italie méridionale. Quelque part au milieu entre différentes localités, vous déchiffrez sous la carte la ville de Métaponte, à l'extrémité orientale de cette région, où est mort Pythagore, est enseigné et mort Pythagore. De l'autre côté, un peu plus vers Naples, la ville d'Élée, où a vécu et enseigné Parménide et Zénon. Une région, je l'ai dit, très pauvre, agricole, un village au milieu de collines presque cachées, dans des paysages plutôt verdoyants, pas nécessairement très sèches, mais lié à une tradition et une simplicité de la vie, des mœurs, du quotidien, qui quelque part la chasse en dehors de l'histoire, la met dans une dimension un peu, je dirais, plus qu'archaïque, presque métaphysique, d'être injecté à la modernité et à l'histoire. Je fais passer un petit peu avec votre collaboration ces matériels de manière que vous puissiez les partager. Sinis Gall se trouve donc dans un contexte géographique, historique et social très particulier, où rien, on ne pourrait imaginer, l'aurait amené à faire les parcours qu'il a fait. Et pourtant, nous verrions comme dans cette parcours se charge à chaque étape de nouvelles expériences, de nouveaux élargissements d'horizon. Le père est amené à émigrer dès que Leonardo Sinis Gall a même pas 3 ans. Il part en Amérique, il va en Colombie, à Barranquilla pour la précision, exercer les métiers de couturier. Et donc, si le jeune Leonardo reste avec ses sœurs et frères, ils sont 7 fils dans la famille. Dans ces villages, je vous fais passer aussi également quelques photos de Leonardo tout jeune, qui est, peut-être que c'est un peu dans l'autre sens, qui est... je le disais, un village très pauvre et simple. Cela quand même détermine une première caractéristique de la jeunesse de l'enfant. Une énorme liberté. Leonardo Sinis Gall se trouve dans ce village, dans une dimension suspendue. L'absence du père et la présence d'une mère, une force, je dirais, matriarcale très importante, mais dans un contexte de grande liberté. Leonardo Sinis Gall peut... explorer les rues de son village, les ravins qui sont en dessous de sa chambre. Sa chambre donne vraiment sur un petit ruisseau avec une descente très très rapide, une falaise presque, en dessous de sa fenêtre. Et explorer et voir ce monde sans aucune préconstruction, dans une appréciation, une appropriation, je dirais, presque férine, presque animale. Une jeunesse libre et champêtre quelque part, et dans lesquelles commencent à émerger, alors c'est des souvenirs qu'il, Sinis Gall, reconstitue après coup, des éléments caractéristiques. Évidemment, les rapports avec la nature, le monde et les suggestions de ces paysages, qui sont très très forts, et aussi l'action de l'homme, par contre, sur cela. Il y a un passage qui, Sinis Gall écrira beaucoup plus tard, à propos de son enfance, en disant, à propos des forgerons de son village, il y en avait bien quatre, à raison du grand nombre d'animaux, des faux, des marteaux qui étaient nécessaires aux travaux des champs. Les forgerons de Montémour étaient les idoles de notre enfance. Ils étaient célèbres dans toute la contrée. Ils avaient des coups, des pouces, des poitrines très puissantes. Quand ils battaient la massue sous les fers incandescents, nous, les enfants, nous courions devant leur atelier, entraînés par une admiration presque sauvage. Donc ce monde naturel, mais aussi dans lequel émerge la nécessité de l'homme d'agir pour les former, les déterminer, un petit peu à Nico, ce qu'on avait dit l'autre fois sur Ipsos. Dans une autre perspective, évidemment, vous verrez, la dimension politique est explicitement absente chez Sinis Gall, mais cette idée que le travail et l'action de l'homme peuvent être les correspectifs de la nature et de son terrain d'action est très important. Il y a aussi un épisode dans cette jeunesse. Alors, Leonardo Sinis Gall démontre d'être un élève brillant, ses résultats sont très excellents, et il se plaît à peut-être à imaginer un épisode, inventer un épisode comme quoi son maître décolle le couronne poète devant les autres. Évidemment, tout ça relève de la fiction rhétorique, mais ça nous dit déjà une chose. Comme dans Sinis Gall, l'idée de la reconnaissance de ses capacités devient un élément clé. Vous le verrez au travers de sa biographie. Il me paraît d'avoir repéré cet élément. À chaque fois, à chaque élargissement d'horizon, Sinis Gall se trouve dans la, je dirais, pas l'obligation, mais dans la pression à pouvoir justifier son rang, à pouvoir démontrer que même en venant d'un territoire périphérique, d'une réalité marginale, il peut dépasser ses obstacles, il peut se montrer à l'auteur et même dépasser les attentes qui sont portées sur lui. Les premiers traumatismes de son enfance viennent avec le départ de ce village. Ses capacités, je vous l'ai dit, sont assez extraordinaires. Il imagine, il rappelle dans un souvenir d'enfance, son maître l'aurait couronné avec une couronne poétique devant les autres élèves. Et il part, il quitte sa maison. Donc imaginez ce jeune enfant, sa mère dans un petit village, qui est envoyé, en vertu de ses capacités intellectuelles et de sa réussite dans les études, aller assez loin. Alors il part dans une ville qui est au nord de Naples, Caserta, dans un collège de Salésiens, et il a vécu la première rupture avec ce monde d'enfance, que vous verrez, on y reviendra beaucoup, sera très profondément cristallisé dans son parcours et dans sa poésie. Il s'apprête donc à ses voyages qu'il avait préparés, lui, depuis un an. Il me fallait devenir grand, convaincre ma mère qu'elle pouvait me laisser seule. Pour entendre donc dans la voiture, ce matin-là, je sentais qu'il allait durer toute ma vie. J'ai dit parfois en plaisantant que je suis mort à 9 ans. Cela se passe à 9 ans, à 9 ans de poète. Je vous dis à vous, mes amis, que les ponts sous l'Agri, c'est le fleuve qui s'écoule en bas de son village, s'écoula une heure après notre passage. Et toujours plus, je me convainc que tout ce qui m'est arrivé ensuite ne m'appartient pas. Donc il y a ce traumatisme fort, cette séparation de ce monde, où la distance même a sans doute contribué à une structuration mythique de ce passé, de cette jeunesse, mais qui est rompue assez rapidement. Il fait des études d'abord à Caserta, je l'ai dit, après à Benevento, toujours des villes de la campagne, et il poursuit avec beaucoup de succès et des excellentes notes, jusqu'à obtenir en 1925 son bac, on va dire comme ça, l'équivalent du bac actuel à Naples. Il a la meilleure note de toute la région de la campagne, de la région de Naples. Eh bien, un parcours de en soi extraordinaire, mais qui, si vous voulez, on pourrait imaginer de régulier. Il fait ses études, il est brillant, il continue. Et c'est là que les mécanismes, on va dire, s'altèrent. Et la ligne droite, quelque part, fléchit et se brise. L'été de cette licence, de ses études, il revient à son village où il rencontre un ami, Mimi Bonelli, qui évoquera dans toute une série d'écrits successives, qui lui commence à partager des livres de poésie. C'est des poètes du courant italien qui s'appelle Crepuscolarismo, la poésie du crépuscule. C'est des poètes anti-rhétoriques, très concentrés sur l'instinct fugitif, l'éphémère, merci, de l'homme. Ce sont des poètes qu'il aime beaucoup et qui commencent à l'impressionner. Et il ouvre dans son cœur une dimension qu'il n'avait pas jusque-là soupçonnée, celle de la poésie. Il dit, nous passâmes avec ces lectures la plus belle été de notre vie. Le père revient d'Amérique en 1922, une grosse déception de Sinis Gall qui le voit venir au parloir dans son collège, je fais un petit pas en arrière, et qui manifeste une énorme déception pour cet homme dont il voit toute la fragilité. Vous avez vu peut-être la photo de Sinis Gall, enfant qui se promène dans la rue principale du village avant qu'il parte, et au retour du père, cette photo qui arrive plus tard, il y a déjà le sentiment de la perte. Vous verrez, la photo est assez emblématique parce qu'on voit Sinis Gall qui est un peu détaché par rapport à la famille, ça me se met un petit peu de côté. J'ai dit effectivement qu'il y a donc cet défi chaque fois d'aller vers un monde plus vaste, dépasser les remparts de son village et se devoir montrer à l'auteur. Après cette licence, donc ses études napolitaines, et il arrive à Rome pour faire des études de mathématiques. Effectivement, il était un excellent élève, donc ils se disent, bon, on va lui faire faire maths parce qu'il est fort. Et il s'inscrit à la faculté de mathématiques en 1925 à Rome. Et la date, vous êtes sans doute conscient du fait que l'Italie vient de sombrer dans le fascisme, de la dictature fasciste qui s'installe en 1922 et qui émane à ces mêmes années 1925, où Sinis Gall arrive à Rome, des lois dites fascistissime. Très fasciste, c'était le terme officiel, où en effet il y avait le contrôle sur la presse, l'encadrement des loisirs, vraiment l'état totalitaire moderne qui est là sous l'invention italienne. Et bien par contre, derrière ces tissus, cette façade de rigueur, il y a quand même un fourmillement de tendances, aux richesses, aux complexités d'événements. On le verra même par la suite, la culture officielle qui cherche de uniformiser et de tout couvrir, et en réalité cache des fourmillements très riches et très divers dans la société et dans la culture. C'est les années où Sinis Gall rencontre des poètes et il commence à sécher les cours de maths. Il commence à faire les nuits, passer tard la nuit avec ses collègues poètes, écrivains, peintres. Il connaît notamment Libero de Libero, Arnaldo Beccaria, c'est des poètes de l'époque, et surtout, peut-être vous l'avez entendu en France aussi, peut-être un peu connu, Giuseppe Ungaretti. Ungaretti, qui est l'un des plus grands poètes italiens du XXe siècle, et qui remarque tout de suite Sinis Gall. On verra, lui sera aussi beaucoup d'aide par la suite. Il aussi, on lira un morceau plus tard, il rentre dans une crise aussi parce qu'il rencontre à Rome la sensualité et l'amour dans une vie qui était très contrôlée, très autodisciplinée. Il avait vécu au village, peut-être il était dans les collèges avec les prêtres, donc il avait eu une vie assez ordonnée et je dirais presque subordonnée. Cette crise se traduit avec l'envie de commencer à écrire des vers, à abandonner la faculté de mathématiques et s'inscrire à celle d'ingénierie, qui lui paraissait plus facile. Et moins contraignante d'un point de vue de l'engagement intellectuel, mais donc plus compatible avec ses autres loisirs, ses autres intérêts. C'est les premières tentatives qui sont faites après cette saison romaine, en 1927. Il écrit son premier recueil qui s'intitule Cœur. Je vous en lirai un extrait dans ma traduction parce qu'il n'était pas traduit en français. qui m'intéresse parce que vous verrez par rapport à ces premières tentatives, le style de Sinsgall sera beaucoup, beaucoup marqué par une rupture, par une différence importante. C'est des poèmes que le poète a même refusé de republier de son vivant. Les a vraiment considérés comme une partie à oublier de son œuvre. Eh bien, ce poème Cœur, alors je pense que la prononciation en français c'est Colchic, c'est ça ? Colchic, les fleurs d'hiver, qui d'ailleurs en ce moment fleurissent. Glycine en grappe lilas, tisse des tapisseries dans les jardins, souriant. Ma chambrette nue aimante, de l'ombre s'ouvre au jardin, défait. Est un rayon de soleil, un souffle léger, un parfum, désire mon âme. J'ai cherché volontairement la dimension un petit peu facilement lyrique, permettez-le-moi. Et vous verrez, en ayant dans les oreilles ces poèmes, avec ces images, on parle de jardin et de fées, donc quelque chose de magique, de irénique, vous verrez la rupture avec son premier recueil plus conscient, et qui sera proprement la raison de sa célébrité. Je saute sur les détails, il passe ensuite à Milan, il a son diplôme d'ingénieur et il se retrouve dans cette ville, encore une fois pour chercher du travail initialement, mais il se retrouve à perdre sa journée, à perdre son temps avec les poètes, avec les autres écrivains qui dans cette Italie des années 20 fourmillent et cherchent à échapper à la rhétorique du régime. Remonte à cette époque, si je fais un petit pas en arrière, avant d'arriver à Milan, la connaissance et l'appréciation, l'amour pour la culture française. Je vous lis un petit morceau. Dans cette librairie de Rome, un jeune vendeur qui était devenu notre ami nous faisait feuilleter les nouveautés de Paris. Les Éloirs, les Bretons, les Aragons, les Soupaux, les Denons, les Zara étaient publiés à cette époque les premiers issues des commerces que j'avais feuilleté au matin dans un cabinet de lecture de l'ambassade française. Si dans un vieil hôtel particulier entre les Panthéons et la place Savoie. Dans cette grande pièce où on ne croisait que très rarement d'autres visiteurs, j'ai lu pour la première fois quelques poèmes de Michaud et les inoubliables traductions des poèmes populaires de Madagascar faites par Paulin. Ah, vous voyez tout de suite, c'est un jeune ingénieur, il n'a même pas encore fini ses études, il est en train de les finir, mais il s'intéresse beaucoup à des nouveautés qui pour l'époque étaient extraordinaires. Et regardez les niveaux de détail. Les poèmes populaires de Madagascar traduits par Paulin, il faut aller les chercher ça. Voilà, donc vous voyez que c'est un homme extrêmement curieux culturellement. Il ne se contente pas, il n'aime pas les grandes synthèses. Il aime creuser, il aime se ramifier. Il participe, donc je disais, il arrive à Milan, il participe riche de cette formation poétique qui va s'enrichissant, notamment avec les poètes qu'il vient de citer. Arrive à Milan, où il aime se qualifier de musulman avide d'odeur. Vous verrez sa photo, il a quand même des traits assez typiques de l'Italie du Sud, des grandes lèvres, une couleur de peau, dans la photo en noir et blanc, on ne la voit pas, mais assez sombre. Et l'origine de son village, même, il se plaît à l'imaginer comme... Et historiquement, c'est avéré aussi lié à la présence des morts dans l'Italie du Sud. Il participe à des concours de poésie nationaux, les Lictorio de la culture, c'était l'emblème officiel du fascisme, c'était les Facio Lictoires. Il arrive premier, mais il se fait massacrer par la critique. Ils disent qu'est-ce que c'est, ces décadentismes, c'est cette magistrale atmosphère, on a besoin d'esprit fort, etc. Un peu par rapport à peut-être à cet échec de la critique, un peu parce qu'il n'arrive pas à trouver du travail, revient à son village natal, 1935. À Montemurro, il a réussi à participer à des revues, à faire des interventions, à gagner un petit peu sa vie avec quelques petites critiques et des interventions sur des revues, mais il n'arrive pas encore à trouver un travail. Et là, il se réfugie un petit peu dans ce... village natal qui constituera pour lui la source d'inspiration très forte. Et il compose là peut-être ce qui pourrait être considéré comme les fleurons de toute son espérance poétique. Sa carrière arrive jusqu'aux années 80, meurt en 1980, mais vous verrez que la raison pour laquelle Sinsgall est célèbre et ceci pour laquelle on s'arrêtera surtout sur cette période, c'est ses premiers poèmes. Il se renferme dans cette pièce de la vieille maison désormais abandonnée. Les parents ont déménagé dans une autre maison plus grande. Et les yeux sur les ravins, le corps renversé sous les lits à regarder les poutres, dans la solitude et dans l'hiver de 1935, compose ses premiers poèmes les plus importants, qui convergeront après dans un recueil publié en 1936 l'année suivante, qui intitulera significativement 18 poèmes. 18 s'écrit un chiffre. Vous verrez que ce n'est pas un hasard. J'ai beaucoup parlé, donc je pense qu'il est venu le temps de laisser la parole au poète qui est interprété ce soir même par Monsieur Blavin avec, et Madame Kleine pour les premiers deux poèmes des 18 poèmes dont on a parlé.
Depuis 18 poèmes. Les chiens ralentissent leur course entre les pieux desséchés des vignes. Si bas est Orion par ces soirs doux de fin d'année, à ce tournant oscille le chariot d'or. Toi tu regardes l'aube de la lune rouge dans le livet. La colline est secouée par un bruit de pressoir, fraise et le gravier. Sur tes pas, la roue ne la brise pas, se fait plus lointaine, ombre aveugle dans la poussière.
On célébrait à perdre haleine la lumière. Les soirs où le soleil bat, rougissait la gorge des hirondelles volant à ras de terre. Désormais, et toujours plus vif, sera le désir de faire la nuit en moi seul et de chercher salut et repos dans mon histoire la plus lointaine. Chaque soir, je vais à ma rencontre, à reculons.
Donc, vous voyez comme par rapport à la composition poétique qu'on a vu tout à l'heure, la différence est profonde. Là, on avait l'idée d'un enchantement. On parlait des fées, on parlait des jardins. Là, les paysages sont immédiatement plus dramatiques, très intenses. Mais on parle par exemple de la colline qui est secouée par un bruit de pressoir. Il y a évidemment une dimension symbolique, je dirais. Magique, si vous me permettez le terme, mais rien à voir avec la présence des fées. C'est les bruits du travail, de la vie, de l'existence. Et il y a aussi un parallèle de cela, l'idée que dans l'expérience de la vie elle-même, se produit immédiatement aussi sa perte. Ces fées plus lointaines, l'enfance aveugle dans la poussière, ombre aveugle dans la poussière. Ou aussi là, les vers qui étaient cités tout à l'heure. Chaque soir, je vais à ma rencontre à reculons. Donc l'idée, vous voyez, la forme est très raréfiée, les images sont assez sèches, si je peux ainsi dire, et même la forme se dépouille. C'est un processus qui sera adopté par le poète de manière variable, mais qui portera vers la fin de sa vie un dépouillement extrême et très 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 essentiel. Ces poèmes sont aussi l'occasion pour reprendre ses rapports avec les villages, cette rupture, les ponts qui s'est écroulée derrière les poètes au moment de son départ. Et des personnages de son enfance. Il y en a deux que invite M. Blavin à lire, les 4 et les 10 de ces 18 poèmes, qui parlent de deux figures de l'enfance. Une évidemment la mère, l'autre plus indéfinie.
Chaud comme j'étais dans ton ventre, je m'accroche à tes reins, ma mère. Je suis ton fruit, et à toi je reviens chaque nuit et l'heure de ma mort. Nous dormirions ensemble comme autrefois, la plante de mes pieds pressée contre ton cœur. Tu étais droite et heureuse devant la porte que le vent venait d'ouvrir sur la campagne, pétrie de lumière. Tu te tenais immobile dans le jour, au temps des guêpes d'or, lorsque dans le sureau se font douces les moelles. Alors, on allait déchausser par les fossés, on mesurait l'ardeur du soleil d'après les empreintes laissées sur les rochers.
Je vous la lis en italien. Mais ça vous verrez aussi, vous savez de quoi elle parle. Vous laisserez aller votre oreille au sentiment, à l'imagination. Et vous verrez quels sont aussi les outils métriques et techniques dont se sert Sinis Galli comme poète. Eri dritta e felice sulla porta che il vento apriva alla campagna. Intrisa di luce stavi ferma nel giorno, al tempo delle vespe d'oro, quando al sambuco si fanno dolci le midolla. Allora s'andava scalzi per i sassi, si misurava l'ardore del sole dalle impronte lasciate sui sassi. Qui Sinis Galli utilise les assonances et la rime de manière extrêmement parcimonieuse, extrêmement calibrée. Sinis Galli utilise une allure et un ton qui paraissent au début presque être dans le registre de la prose, mais rapidement on voit que pour les jeux des assonances, la fin du poème, souvent c'est un astuce que Sinis Galli utilise, se cristallise vers les assonances, vers les rimes. Allora s'andava scalzi per i fossi, si misurava l'ardore del sole dalle impronte lasciate sui sassi. On a évidemment une allure métrique reconnaissable, des fortes assonances avec ces S à la fin. Et là, cette idée donc, de la solennité, quelque chose qui est perdu, quelque chose de hiératique. On part d'un souvenir accidentel, d'être droite et heureuse devant la porte. Et on arrive à cette image presque, je dirais, sacrée, comme d'une déesse. On peut imaginer aussi cette figure de la déesse dans les temples de l'Olivera sous l'Acropole, qui souvent la culture classique quelque part émerge par petites touchées dans la culture de Sinis Galli. Ces mêmes années sont donc les années de la... Alors ça, oui, on est plus tard. C'est les années de... quelque part du succès, parce que cette première récolte lui permet d'avoir un certain écho dans la presse. Après le premier concours qui n'était pas une grosse réussite, et ici il y arrive une chose importante. Sinis Galli, l'année d'après, c'est quoi, en 1936, trouve finalement un travail. Il va trouver un travail dans la société du linoleum, qui était propriété du groupe Pirelli qui fait les pneus dans les centres de l'Italie, et commence avec son championnaire les échantillons de lino, voilà, à faire le tour d'Italie et à connaître les paysages et les villes d'Italie, surtout sa réalité industrielle. C'est son premier véritable rencontre avec le travail et avec le monde de l'industrie, et on pourrait se dire bon, ok, il est un ingénieur, donc c'est son environnement naturel, il les fera avec une attitude technique. Et Sinis Galli s'intéresse même à ce travail, qui est un travail évidemment alimentaire, avec une âme et un esprit d'homme de lettres, avec un âme et un esprit de poète. Il publie une récolte, je vais vous faire passer, là c'est la couverture de ses livres, qui donne aussi une idée de l'évolution du graphisme en Italie des années 20 jusqu'aux années 80. Il écrit une petite recorde qui s'appelle Portrait des machines. C'est Sinis Galli qui va dans les usines, il fait des esquisses, des croquis des machines, et il écrit les émotions que les machines lui suscitent. Il constate la fatigue de la machine après une journée de travail, les vibrations qui dénoncent les fragilités de l'appareil mécanique, la géométrie qui peut être lue dans l'œuvre servile de la machine et qui provient par contre de l'intention et de l'intelligence humaine. Cette première expérience chez la société du linoleum lui permettent d'être connu dans les milieux industriels, et l'année d'après est appelé par Adriano Olivetti, celui des machines à écrire, dans la ville d'Ivrea, à faire le directeur technique de la publicité. Vous rappelez la rose d'Alain Krill. Olivetti était un homme très très cultivé, très intelligent, une espèce d'utopiste des années de lumière, transplanté au XXe siècle en Italie, avait l'idée que, par exemple, c'est les premiers à mettre des bibliothèques dans les des environnements, des usines, au profit des ouvriers, et aux journalistes qui lui demandent s'il n'est pas agacé par le fait que parfois des livres disparaissent, parce que les ouvriers les prennent et les empruntent et ne les restituent plus. Et Adriano Olivetti répond, mais c'est un bonheur que les ouvriers veuillent voler des livres. Et dans ce climat culturel, vous voyez, il y a le fascisme en Italie, mais il y a aussi ces expériences. Donc c'est toujours un peu un cadre complexe à déchiffrer, et évidemment, et heureusement, avec des richesses et des contradictions. Il s'occupe aussi de la publicité pour Olivetti. Il réalise des vitrines. J'ai ici quelques petites, faisons les circuits dans le sens inverse. Ici, c'est ses années universitaires. Fait des vitrines et s'occupe de la communication de la maison Olivetti. Continue à écrire et dans une phase créative où son nouveau travail lui permet aussi d'avoir plus de sérénité. Et il continue dans cette lignée poétique où il revendique à nouveau les souvenirs de son enfance et sa formation initiale, cette formation qui a été faite par les plantes, par les rues, par les autres enfants, par les forgerons qui tapent les marteaux dont les coups arrivent jusqu'à sa chambre. C'est des poèmes qui ont été écrits dans les années 1937, dont on va lire quelques extraits, donc la poésie pour une cigale et les chants élyséens.
Poésie pour une cigale. Je ne.
Mais alors, voilà. Mais là-bas, il demande.
Pourquoi ?
Moi, si t'as.
Vous m'entendez pas ?
Faut croire.
Excusez-moi, vous m'entendez pas quand je parle ? Non ?
Non, c'est pas pour ça, mais c'est pour ça des cours, juste.
Non, c'est pas le problème, c'est pas la même chose.
C'est le microphone de la.
C'est pas la même chose.
Je ne sais pas chanter le zèle de la fourmi immortelle. Bien plus proche de mon sort est le chant de la cigale qui tremble jusqu'à la mort. Au temps de ma vie délicieuse, je me confiais à cette colère insistante qui m'endormait avec une cigale dans le cœur. À présent, au milieu des ruines de ma journée, il ne me reste qu'un peu de poussière dans le poing. Mais si précieuse est ta dépouille, que j'entends de nouveau bruire ce pommier, et dans l'air de juin, ton allégresse funeste, naître dernière une feuille.
On continue avec, oui,
avec Champs-Élysées. Au-delà de la douce province de la Grille, vous avez abordé au rivage rêvé, obscur mort familier. Vos dépouilles ont donné la santé au vert des jardins potagers. Les champs de fèves se sont étendus par-delà les grillages, là où brûla superbe l'âge des roses. Les chèvres piétinent la terre par les jours de sécheresse.
Vous voyez comme chez Sénisgalli, cet lieu mythique de l'enfance, ces souvenirs reviennent de manière constante. Ils sont la source de son inspiration. Ils les resteront à jamais. Elle s'enrichira, cette inspiration, on le verra par les éléments de la rationalité technologique, par les charmes des mathématiques. Mais cette présence de lieu de l'enfance, vous voyez, est très très forte. Vous remarquez, on a parlé de l'âge des roses. Et on a parlé des champs de fèves qui se sont étendus par-delà des grillages. Sinisgalli, comme son maître Ungaretti, est très fidèle au mandat de Mallarmé. On en parlera peut-être s'il nous reste un peu de temps tout à l'heure. La poésie doit contenir un secret. Vous avez vu l'affiche de la rose avec l'encrier. On ne doit pas comprendre tout de suite au sens. La lecture, les rapports avec la poésie requièrent une action qui vient du lecteur. Il faut que le lecteur s'interroge, il faut qu'il creuse. Le poème ne finit pas dans le moment où il écrit, mais il fait partie de la vie du lecteur, de sa capacité de les lire et de les comprendre. Pourquoi on parle de champs de fèves? Vous avez vu dans la carte de l'Italie méridionale tout à l'heure, la ville où naît Sinisgal et Montemurro se trouvent à moitié entre Élée, la ville de Parménide, et Métaponte, la ville de Pythagore. Pythagore avait en horreur les fèves, il était interdit de les manger, même de les nommer, il paraît, en présence du maître. Et donc, Sinisgal, il sent cet héritage, mais les décline de manière détachée, non sarcastique. Mais il fait comprendre que cette simulacre des fèves, qui selon la tradition pythagoricienne, avait un fleur ressemblant à l'œil de l'homme, l'œil de mort. Donc, les fleurs de la fève représentaient une âme. Ils se sont étendus par-delà des grillages. On parle des grillages du cimetière, vous voyez ? Donc, c'est l'idée que les morts ont dépassé, par la force de la poésie, par les souvenirs, par l'âme de la nature, la mort elle-même. Même s'ils sont obscurs, les morts familiers, ils sont vivants par la poésie, évidemment, par l'œil du fleur, des fèves qui dépassent le grillage. Là où brûla superbe l'âge des roses, l'antiquité classique, hein, on est dans ce monde qui a eu une tellement grande fleuriture dans l'antiquité, Pythagore, les temples grecs, vous allez à Basilicata, encore aujourd'hui, la région où il y a même Sinisgal, il y a des temples grecs, il y a des restes de la Grèce antique très impressionnants. Et pourtant, la région, à l'époque de Sinisgal et encore aujourd'hui, est une région pauvre, agricole, une région marginale, une région sèche, une région où l'éboulement écrète les collines des villages. Dans ces paysages-là, donc, archaïque, mais inspirant pour l'héritage antique qui est très présent. Vous voyez, ce n'est pas un néoclassicisme rhétorique, pompeux. C'est presque un souvenir douloureux, évocateur, associé inévitablement à la perte de cette passée. Il y a un autre poème qui est probablement l'un des poèmes manifestes de Sinisgal, où le poète raconte sa rencontre avec les muses, rien de moins.
J'ai vu les muses sur la colline, c'est sûr. J'ai vu les muses juchées dans le feuillage. Oui, ce jour-là, j'ai vu les muses entre les feuilles larges des chênes qui mangeaient des glands et des baies. J'ai vu les muses sur un chêne séculaire qui jacassait le cœur émerveillé. J'ai interrogé mon cœur émerveillé. J'ai dit à mon cœur la merveille.
Il est là évidemment l'écho de la rencontre qu'il fait Hésiode dans la Théogonie, le poète grec qui raconte d'avoir rencontré les muses. Elles-mêmes enseignèrent leur beau chant à Hésiode, tandis qu'elle conduisait son troupeau au pied de l'Hélicon. Et voici comme elles me parlèrent, les déesses de l'Olympe, ces filles de Jupiter. Pasteurs qui dormaient dans les champs, race grossière et brutale. Nous savons ces histoires mensongères qui rassemblent à la vérité. Souvenez-vous de ces passages. Nous pouvons ainsi, quand il nous plaît, à raconter des véritables. Ainsi dirent les filles éloquentes du grand Zeus. Elles placèrent dans mes mains un sceptre merveilleux, un verdoyant rameau d'olivier. Elles m'ordonnèrent de célébrer la race des immortels, les bienheureux habitants du ciel. Mais c'est assez discourir, comme l'on dit, sur les chênes et sur la pierre. Ce que je vous ai lu, c'est la Théogonie d'Hésiode. Donc vous voyez, Sinisgal reprend ses grands modèles de la Grèce ancienne, mais les décline dans un langage qui est tout sauf que rhétorique. C'est des oiseaux, probablement, c'est des pies ou des corbeaux qui sont sur l'arbre. Et pourtant, ils deviennent les muses, parce que c'est la réalité qui les inspire. Une chose qui est très indicative du style de Sinisgal, il dit sous la colline, c'est sûr, j'ai vu les muses. C'est presque un rendu d'un enfant qui revient à la maison. C'est vrai, je les ai vus par de vrai. Vous voyez comme c'est touchant, comme elle est forte, comme elle est hautement poétique, cette image. La fragilité du message poétique ne tient qu'à la complicité entre le lecteur et l'écrivain, quelque part. Et à la fin même, cette répétition qui était si bien lue par M. Blavin, où le poète n'arrive pas à... Il lui coupe le souffle, cette surprise. Il répète, j'étais émerveillé. Il ne sait pas comment dire. Il se répète à plusieurs fois. Eh bien, vous voyez, cette style dans une Italie dont la littérature entre guillemets officielle était celle des D'Annunzio, de la rhétorique des futuristes. Et on va célébrer les coups de poing, la force violente de l'automobile. C'est tout un autre registre. C'est quelque chose qui nous parle de la fragilité, de la sensibilité de l'homme, de l'espoir qu'il peut, par la littérature, de se hisser, même de mon misérable et pauvre, qui constate, qui observe. Un autre exemple de ces poèmes, où vous voyez la structure extrêmement dépouillée, froide et à la laine du soir, sous ces prés que j'ai touchés de mon front chaud, empli du bonheur de la course. Freddalita la sera su questi prati che toccai con la fronte calda e felice della corsa. Rien d'autre. Ces souvenirs, quelques images. Et vous voyez que ce dépouillement ira même encore plus loin. Il rencontre en 1942 aussi la femme qui l'accompagnera pendant toute sa vie, Georges de Cousandier, qui était déjà marié avec un autre homme et dont elle est divorcée, et il revient au village dans ces mêmes années, tout de suite après vers la fin de la guerre, où il trouvera de l'incompréhension et du refus de son milieu familial. Comment se fait-il qu'il s'est marié ou elle est avec une femme, c'est pas encore, mais il était avec une femme qui est déjà mariée, divorcée, avec un enfant en plus. Il se trouve à nouveau isolé et dans une situation difficile. Il subit aussi les affrontements et les souffrances de la guerre. Il est même emprisonné par les SS en 1944 à Rome. Il échappe de peu à la mort, grâce d'ailleurs à l'intervention de sa femme, de George, qui s'accompagne. Et il se rend compte aussi que cette saison extraordinaire, celle des poèmes qu'on a lus, ne peut être pas reproduite au-delà. Les problèmes de Sgalli, c'est qu'il est lui-même, il a exprimé pratiquement son mieux, tous les maximums, au début de son expérience poétique. Après ce qu'on a lu, quoi dire d'autre? Et Sgalli s'invente autre chose. Il passe à un virage plus prosaïque tout de suite après la guerre, écrit un nouveau texte qui s'appelle « Les nouveaux Champs-Élysées », comme le titre de « Nouvelle récolte » que vous venez de citer, ou adopte un style beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus explicite. Je vous en lis un extrait. Village. Nous traversâmes tous les villages à l'heure que les ânes reviennent chargés de bois depuis les sommets parfumés de la serre. Ils frottaient les oreilles poilues contre les rustres murailles des maisons, étaient sonnés attachés au bout de la clochette de la petite chèvre que les vieillards traînent dans les noirs comme un chien. Quelqu'un nous souhaita la bonne nuit assis devant la porte. Les rues sont si étroites et les meubles si accolés au seuil que nous entendîmes le bruit de la friture, la lune naissante, des poivrons plongés dans l'huile. Vous voyez que le style est différent des autres poèmes. C'est un style presque prosaïque. L'expression est continue, il y a les vers s'effacent, il n'y a plus de structure, il n'y a pas de rimes. Sgalli se préoccupe de construire une continuité entre la prose et la poésie, parce qu'il se rend compte que les deux expressions sont également légitimes, interprètent deux sentiments différents de l'homme, mais tous les deux méritent la langue et et l'intérêt du poète. Cette continuité entre prose et poésie sera un élément qui reviendra de plus en plus dans son parcours. Et à un moment donné, on utilise même l'expression j'ai cherché à mélanger la prose et la poésie, je ne la trouve pas, je vais de cœur, comme les alliages des métaux, comme les charbons, l'impureté qu'à l'intérieur du fer rend plus fort et résistant l'acier. Cette idée de la contamination, de l'impureté, un élément qui revient dans la poésie de Sgalli, en exergue à l'un de ses recueils poétiques, il citera en phrase de Marie Curie, « C'est la dissymétrie qui crée les phénomènes. S'il n'y a pas une incertitude, une imperfection dans les réels, l'événement ne peut pas se produire. Tout ce que nous observons dépend d'une asymétrie, d'une incertitude quelque part de la nature. » Si Galli, compte combien de temps j'ai là? Parce que là, je risque de parler trop. Quand des nuits, mes combien de temps tu m'accordes encore?
Non, encore 20 minutes.
Donc, Silice Galli, vous l'avez vu, espérance poétique, les villages, les études d'ingénierie, il se perd parce qu'il va découvrir la ville, les poètes, l'amour, et pourtant il revient toujours à cette polarité, cette cordonne initiale, cette enfance, ces lieux perdus, et qui lui parle de manière continue dans sa vie. Il lui importe par contre que cette expérience poétique de l'enfance ne soit pas fin elle-même. Dans sa vie d'homme, Silice Galli, je le disais tout à l'heure, arrive parfois à des... souvent il arrive à des nouveaux horizons, des nouveaux défis qu'il veut dépasser, il souhaite dépasser. Et comment peut-il le faire? Silice Galli revendique l'intérêt que ce soit justement les petits enfants du village qui arrivent à être les directeurs de la publicité chez Olivetti. Il revendique que ce soit les poètes qui arrivent à s'occuper de l'industrie des machines. En 1948, il est appelé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une récolte poétique dont je vous lire un extrait de 1947, il travaille pour la société Pirelli, la maison mère. On lui demande d'animer une revue d'entreprise. On pourrait considérer à nouveau un travail de convenance, quelque chose d'alimentaire. Et bien, Silice Galli dit non, si je fais quelque chose, je dois le faire en y mettant toute mon histoire, toute ma force, toute ma conscience poétique. Il prend cette revue qui s'appelle Pirelli, qui dit comme ça, c'est une revue qui parle de pneus. Mon Dieu, quelle horreur, quelle nuit, qu'est-ce qu'il a à faire en poète là-dedans? Je vous fais passer ces feuilles, vous verrez quelques pages de cette revue qu'il dirige de 1948 à 1952, où il récolte ses défis, on dit comme ça, ramasse les grands défis, comment dire,
relève les défis,
et il commence à coordonner des campagnes publicitaires, des articles qui parlent de son village et des sculptures sur les pneus qui lui paraissent être les remparts de la décoration antique des temples dans le quotidien et dans le banal. Il parle de la technologie et des ferronniers. C'est sur cette revue qu'il écrit nous, pendant notre enfance, on avait comme mythe les forgerons. Il revendique dans sa poésie et dans son expérience, dans sa connaissance du monde industriel, le fait que ce soit justement cet héritage, justement les gestes de forgerons qui arrivent à faire comprendre et interpréter la nouveauté industrielle. Silice Galli écrit dans cette revue: j'ai voulu me maintenir fidèle aux gestes de forgerons. Leur force, leur intelligence serait traduite dans l'amour que je porte aux machines, aux pavillons, aux hangars. Et donc, il utilise encore une fois le poétique pour aborder ce monde de la modernité, ce monde du profit, disons aussi, ce monde de la technologie qui n'a rien à faire de cette vieille nostalgie poétique. Silice Galli, c'est le point peut-être le plus intéressant. Il dit, attention, c'est justement avec les regards du poète qu'on peut dominer, comprendre, vivre, survivre dans la civilisation technologique. Parmi les écrits que je vous fais passer, il y a aussi, Silice Galli s'intéresse aux qualités esthétiques de certaines modèle des surfaces algébriques. Il y a un article très célèbre qui s'intitule « Géométrie baroque ». Vous verrez les photographies, ça sera beaucoup plus explicite que mes descriptions. L'intérêt de Silice Galli pour les baroques, qui affirmait justement sur une revue industrielle qu'on pourrait considérer quelque chose de complètement étranger, non? Qu'est-ce qu'il y a de plus étranger à la rationalité technique que les baroques? Silice Galli dit « Les baroques et les transvasements de l'intelligence dans la matière, une tentative d'insouffler l'esprit dans les creux de la création, une aptitude à manipuler, à pétrir, un revival du mythe de l'accouchement, du mythe domestique. Les baroques et une irritation de la patience classique, un doute sous l'olympicité, une flèche de l'empire et de la stase. Extase alors, fièvre du paradoxe, de l'infinitésimal, de l'insaisissable, mathématique des restes, des points d'inflexion, des points cuspideux, des goûts alexandrins, de la pacifique léthargie euclidienne. Vous voyez comme la culture mathématique de Sinis Gall ne reste pas quelque chose à part. Il n'est pas un poète et un ingénieur pour utiliser la formule. Il profite pleinement de sa culture scientifique, technique, pour l'interpréter, pour la lire, pour la comprendre littérairement, poétiquement, dans la conviction que tout revient à une même dignité, à un même bassin de la connaissance humaine. Il n'y a pas d'échelle pour Sinis Gall entre la poésie, la technique, la science et les mathématiques. Tout fait partie de l'expérience humaine. Vous avez vu, on en parlera encore plus tard, mais on a parlé des coups pythagoriciens et d'huile, des fritures, des poivrons. Comment peuvent-ils rester ensemble, ces choses-là? Comment est-il possible? Comment peut-il avoir la même dignité? Sinis Gall nous dit exactement cela. De par son expérience personnelle, il retrace l'entièreté de ces chaînes de connaissances et d'expériences qui toutes accomplissent l'histoire et la connaissance humaine. Personnage, vous l'avez compris, explosif. J'ai du mal à tenir derrière, même dans cette petite conférence, aux différentes multiplicités. Comme ça, au passage, pendant qu'il dirige cette revue, il va au Festival de Venise et gagne deux fois, en 48 et en 50, la section de courts-métrages. Il prend le Lion d'argent pour deux courts-métrages, justement sous ces formes géométriques que vous verrez dans la revue Géométrie baroque. On en verra une par devant, je vais...
C'est lui qui a réalisé les courts-métrages.
Alors, lui, il est le réalisateur, oui. Il a écrit les scénarios, d'accord. Il a écrit les textes. C'est pas lui qui a physiquement fait la régie, mais c'est vrai. Donc, vous voyez, l'expérience industrielle, la valeur esthétique et poétique du domaine de l'industrie et l'intérêt à différents domaines et champs de savoir. Cette expérience de Sinis Gall avec les... Cette expérience de Sinis Gall avec les revues industrielles ne s'arrête pas avec cette expérience de 48 chez Pirelli, mais devient sublimée l'année suivante, quelques années plus tard, voilà, avec une autre revue dont on parlera. Poésie, mathématiques, expérience technique, expérience industrielle. Sinis Gall arrive, prose et poésie, arrive à tout composer dans un regard hautement poétique qui descend et dépend d'une cristallisation de savoir complexe, parce que les lectures de Sinis Gall, et moi ça fait des années que je m'en occupe, je vous assure que pour tenir arrière à ce qu'il écrit, où il a trouvé là les poésies de Madagascar? Il y a des références à des choses, mais où il allait les trouver ces choses-là? Bon, il publie en 1950 son livre de référence, son texte emblématique, déjà dans le titre, fait écho à cette dimension baroque dont on parlait. Ce livre s'appelle Furor Mathematicus, la fureur des mathématiques. Qu'est-ce que c'est? Les mathématiques, c'est de la fureur? La mathématique, c'est être posé, rationnel, calme? Non, Sinis Gall. Dans la mathématique, il y a de l'émotion, il y a de la fureur, il y a de l'intuition, il y a la tête qui s'enflamme quand elle comprend. Il y a de l'émotion dans les savoirs mathématiques. Les baroques, l'oxymore, non, fureur, mathématicus, c'est vraiment l'idée typiquement baroque de mélanger les contrastes. Ce n'est pas un courant culturel et une histoire qui est contraire à la rationalité. Si on regarde l'histoire, si on regarde Pascal notamment, auteur énormément aimé par Sinis Gall, qui dit les malheurs de l'homme dépendent de cela, qu'il ne peut pas rester au repos assis à rien faire dans une pièce, ou quelque chose comme ça, je les cite.
Oui. Montaigne aussi.
Là, cette image baroque de la science, et d'ailleurs rappelée par un grand critique historien de l'art italien, Giulio Carlo Organ, les baroques critiquaient surtout en Italie comme une décadence par rapport à la période de la Renaissance, magnifique, claire, précise, perspective. Dit qu'alors Argan, qui Finsgalli a connu et apprécié, dans les années où se formait l'esthétique baroque, se formait aussi l'esprit scientifique. Descartes, Pascal, Galilée ne sont pas des hommes strictement parlés de la Renaissance, ce sont des hommes de l'âge baroque. C'est un moment où la connaissance du monde parvient à sa forme rationnelle. Donc il n'y a pas de contradiction entre la raison, on va dire, et l'image poétique. Ces livres, donc, Furor Mathematicus, que déjà dans les titres, vous voyez combien de suggestions on peut ouvrir, récolte plusieurs écrits de Finsgalli, parmi lesquels certains qu'on avait cités, qui ont été écrits dans les mêmes années des premiers poèmes, les poèmes notamment de 1936, les 18 poèmes. Eh bien, dans ce livre Furor Mathematicus, Finsgalli évoque des souvenirs littéraires et poétiques à la fois, je l'ai dit, d'une très grande suggestion. Je vous ai lis un petit extrait. Les livres s'ouvrent comme ça. Vous ouvrez la première page, il est en français. Comme ça, comme je vous l'ai dit. Ô mathématiques sévères, je ne vous ai pas oublié depuis que vos savantes leçons plus douces que les miels filtrèrent dans mon cœur comme une onde rafraîchissante. J'aspirais instinctivement dans les berceaux à voir votre source plus ancienne que le soleil. Et je continue encore de fouler les parvis sacrés de votre temps solennel, moi le plus fidèle de vos initiés. Arithmétique, algèbre, géométrie, trinité grandiose, triangle lumineux. Celui qui ne vous a pas connu est un insensé. Alors ça, ce n'est pas Finsgalli, c'est l'autre amour, le chant de Maldoror. Finsgalli l'aime beaucoup. Et pourtant, il se permet un détachement ironique, parce qu'il les cite, mais vous voyez comme il est solennel, l'autre mot, mathématiques sévères, je ne vous ai pas oublié, votre image plus douce que les miels, trinité grandiose. Cette passion pour les mathématiques, cette description presque erratique, mérite la sympathie de Finsgalli, qui les met en exergue, admire beaucoup l'autre mot, mais Finsgalli va vraiment vers une autre sensation, une autre lecture, beaucoup plus complexe, alors que le traitement est presque détaché de l'histoire par des étoiles qui sombrent dans le vide, parce que les mathématiques n'ont rien à faire de l'histoire. Regardez comme Finsgalli aborde le sujet un peu plus loin dans ce même texte. Les principes de continuité de Dedekind, c'est un mathématicien allemand du 19e siècle, pourraient être exprimés de manière très suggestive, comme ces personnages auxquels le prêta Apollinaire dans la comédie surréaliste Les Mamelles de Tirésias. Entre deux points d'une droite, il y a toujours la place pour un autre point. Ce postulat, avec les autres propriétés qu'Euclide établit pour la droite, est avec un coriolème d'Archimède, étant donné de ce monde, on peut toujours trouver un multiple de l'un d'entre eux qui dépasse l'autre, ont contribué à soulever de façon indissoluble les liens, déjà solides grâce à Descartes, entre nombre et figure. C'est là pour vous dire les niveaux de finesse, de richesse. Pour décodifier Finsgalli, il faut du travail. Ce n'est pas une lecture instinctive. Mais vous voyez les types de finesse, on parle de Pascal, on parle d'Apollinaire, on parle d'Euclide, on parle de Descartes. Pour lire toujours dans un œil poétique la complexité d'un sujet mathématique. Il y a quelque chose de beaucoup plus sensuel dans ces récoltes Furor Mathematicus qu'on va lire tout de suite, qui est le numéro 6A. Je saute un peu sur les 5 parce qu'on n'aurait pas le temps. Je vous prie, monsieur Blavin, de lire un épisode, un conte depuis Furor Mathematicus, une partie où Finsgalli raconte son expérience avec les mathématiques et la vie.
Que s'est-il vraiment passé? Je ne saurais pas dire. Je peux dire d'avoir connu des jours d'extase entre les années 50 et 20 de ma vie, entre les années 15 et 20 de ma vie, en vertu des mathématiques. Et quand il m'arrive de me souvenir de ces jours, de ces simples images, de ces constructions de modèles impénétrables à la mélancolie, aux larmes, aux faiblesses du sexe et du cœur, un enchantement inexprimable, une peine suave, une musique touchante calme toutes mes envies, et je crie à l'ami qui ne me reconnaît plus, C'était celle-là l'intelligence. C'était celle-là l'esprit. J'étais en première année d'université et comme les disciples de Pythagore, j'avais franchi la porte de la citadelle du sublime, comblée d'horreur pour l'odeur des fèves. Je me convainc aisément des premiers dogmes, que tous les cercles dessinés sur un plan touchent l'infini en deux points, et que la circonférence, tout en étant un contour fermé et sans aucune inclination prééminente, s'agite autour de deux pôles orthogonaux avec tendance à se briser et à former quatre arcs égaux. J'avais aussi saisi certaines propriétés fondamentales des agrégats numériques. Mais ce fut justement à ce moment qu'un ami me conduisit pour la première fois dans une maison close dans notre quartier qui s'étendait autour de la petite place de Madonna dei Monti. Il me parlait de délices obscures. Il me dit un dimanche de monter sans hésiter. Et dans une pièce, Nina, je trouvais la femme grasse et rouge qui devait m'initier à un mystère différent de celui de Descartes, de Leibniz ou de Gauss. Je commençais à la chercher presque tous les jours. Cette femme superbe, à l'admirable mâchoire chevaline, ce bipède turgide ne bougeait jamais de son poulailler de la Via delle Frascate. Toute ma mélancolie repoussée, étouffée par les règles et les compas, par le calcul des infinitésimaux, par le flot des fonctions hyperboliques, par la théorie des courbes du deuxième degré, par la spirale logarithmique et le lémiscate de Bernoulli, par les cuspides, les points d'inflexion, par les maxima et les minima, par les voies de l'Antapier, de Severi, de Levi-Civita, refaisait surface sur ce minable parmi les ailes de cette fantastique poule utérine. Au moment de me présenter aux examens, moi, l'élu, à la surprise des camarades des deux sexes, des professeurs, des assistants, des concierges et des auditeurs, je montrais à tout le monde d'avoir la tête embrouillée, la tête d'une bête. Je sortis bouleversé de l'amphithéâtre. Je courus chez l'ami qui m'avait pour la première fois ouvert la porte de l'erreur. Je l'aurais tué avec des petits ciseaux que j'avais amenés en ville, des ciseaux en or. Mais l'ami avait disparu. Je ne savais plus. Que fallait-il pleurer ? Son amitié ou une vocation perdue à jamais ?
Pour un mathématicus, donc, l'émotion des mathématiques, c'est bien décrit, qui trouve légitimité aussi auprès de son vécu personnel et du bouleversement que les sexes et l'amour peuvent engendrer dans la vie d'un homme. Ces livres, Furor Mathematicus, raconte effectivement plein de décrits de Sims Galli sur les sciences, sur les mathématiques, sur la physique. Il y a quelques remarques qui sont intéressantes et qui nous donnent l'idée de comment concevait la modernité des progrès. Il écrit dans un article dans un passage de Furor Mathematicus qui intitule Considération sur l'atomique. Hélas, quelque chose de grande actualité. Que pourrait-il compter vraiment si une montagne accouche d'une souris explosive ? Nous pourrions fabriquer les engins les plus spectaculaires, nous pourrions détruire les roses, les nuages, les sourires. Nous pourrions faire peur à un brebis ou à un cheval. Nous pourrions distribuer au moindre prix tous les biens et les services de la terre. Qui nous ôtera de la tête que le bonheur et la paix de l'âme ne nous seront vendus par personne, aucun prix ? Elles nous coûtent et elles nous sont chères. Elles coûtent à chacun d'entre nous plus que s'il pourrait coûter tout le réunion du monde. C'est une illusion facile de croire que notre intelligence puisse se déplacer, ne serait-ce que d'un pouce, les termes de l'éternité. Sims Galli ne croit pas au fait que la technologie assure le bonheur par elle-même. Et on peut se poser aussi la question, on l'a dit, Sims Galli veut dépasser avec regard de poète la brutalité de la technologie, sa sécheresse, sa froideur. Il importe que les regards que l'homme pose sur la technologie et la modernité ne se limitent pas à se contenter de ses résultats des essais extraordinaires, capacités, de force et d'énergie. Il faut que l'homme les considère avec un regard littéraire, un regard philosophique, pour ne pas en être anéanti. Dans cette même veine, Sinis Gall fonde en 1953 une revue qui est similaire à celle que vous avez entre les mains de la revue Pirelli, qui est un archive, dans laquelle, encore une fois, il fait cohabiter poètes, artistes, graphistes, mathématiciens et ainsi de suite. Vous avez ici quelques-unes des couvertures, je n'engage plus que les autres à bénéfice de la caméra, qui sont très très belles. Où Sinis Gall, vous voyez, prendre des éléments et des diagrammes, par exemple, c'est des diagrammes, toutes les rames de Gantt pour la succession des phases de production industrielle, et il en montre l'intérêt et la capacité et la faculté esthétique. Sinis Gall est très attaché à cette expérience, cette revue qui est animée par l'entreprise Filmeccanica à l'époque, qui s'occupe de machines industrielles. Et dans cette revue, Sinis Gall va approfondir cette réflexion. Je ne m'attarde pas sur la richesse et l'intérêt, mais ils écrivent sur cette revue des poètes, des scientifiques, des mathématiciens. Dans un article, toujours par rapport à l'intérêt et au rôle de la technologie, ça m'intéresse de vous partager ce passage. Sinis Gall écrit : il est logique que la quantité terrifiante d'énergie consommée serait gaspillée si elle ne servait pas à fournir au moins un jouet au dernier enfant de Lucanie, la Basilicate ou des Corées. Que dis-je, un jouet ? Si elle ne servait pas à acheter à l'abécédaire de l'encre et des cahiers au dernier enfant esquimau ou zoulou. La position de Sinis Gall est sous la technologie assez claire, vous l'avez comprise. Dans cette revue, il insiste sur les capacités et l'intérêt esthétique des mathématiques. Vous avez, dans les extraits de la revue précédente, Pirelli, Géométrie baroque, la description de certaines surfaces et les émotions qu'elles peuvent susciter, esthétiques autant que formelles. J'ai porté ici un petit modèle qui Sinis Gall décrit dans un conte de ces mêmes années. C'est un cours mathématique, mais l'ambiance est la même. Ce conte s'appelle Carciofolus Romanus, Artichaut romain en folatrice. Parmi mes copains d'enfance, il y a encore une figure qui m'échappe, une figure que j'ai toujours cherché à rattraper parmi toutes celles si doucement dociles qui se sont prises dans mes pages. Il s'agit de Giuseppe, les petits monstres, les fils de Rosa Mangialupini. Qui me l'aurait dit que dans la forme de Lupin, convenablement agrandi, j'aurais vu un jour réaliser les rêves de Gauss, les rêves d'une géométrie non euclidienne, géométrie baroque, comme j'aime de l'appeler. Mais rien qu'avant-hier, lors d'une visite hebdomadaire au professeur Fantapier, titulaire de la chaire d'analyse au séminaire de l'Institut de mathématiques, j'ai fait connaissance avec un simulacre bien plus complexe que la forme de Lupin, la surface romaine de Steiner. Il s'agit d'une surface fermée du quatrième ordre à variable complexe. C'est une forme curieuse que j'ai vue, un tubercule de la taille d'un caillou, avec trois nombrils. Le mathématicien allemand Steiner la trouva en méditant au Pinch au matinée de 1836. Au Pincho, c'est un col de rue. Assis exactement sur l'une de ces bancs où j'allais lire dans ma jeunesse les chants de Maldoror en mathématiques sévères. Cette surface, je disais, est un fruit romain, comme l'artichaut, Marcellin, Conforto, Fantapier, ce professeur de mathématiques, énumérait de leur côté toutes ces admirables propriétés. Cette fois, c'est tout. Quatre cercles générateurs, trois points triples, une aire calculable pour intégrer un rationnel, et je ne sais pas combien d'autres diableries. Quant à moi, il me semblait d'entendre l'hymne parler des artichauts. Carciofolus picassianus, carciofolus butusi, carciofolus pipernensis aut romanus. La surface de Steiner semble être travaillée plus que par l'humus du testaccio ou des vergers du Gianicolo, c'est le quartier de Rome, plus que par les fertiles fers suburbains, par l'air et la lumière de Rome, comme un beau caillou en travertin. C'est une éponge de calcaire avec trois trous, trois boucles, trois cavités. une forme avec trois bosses, un Borromini. Borromini, c'est un architecte baroque, voilà tout. Elle devait posséder des propriétés acoustiques spéciales. Elle devait avoir une ouïe très fine, cette surface. Elle était composée que d'oreilles. Elle semblait une sonde acoustique plongée dans l'espace. Les bossous aussi ont des pavillons oculaires très sensibles. Ils sont là, toujours en alerte, derrière les rideaux, derrière les portes favorites des rois. Ces monstres maudits n'arrêtaient pas une seule syllabe sortant de la bouche des concubines royales, pas un bail, pas un retournement. Comme mon ami d'en face, Giuseppe Mangialupini, il allait rapporter tous nos discours à l'archiprêtre. Vous voyez, on est parti du souvenir d'enfance, son copain d'enfance. Il avait la forme de Lupin. J'arrive à l'université, je vois cette forme. Qu'est-ce qu'elle m'évoque ? La voici. Elle a un ouïe très fin parce qu'elle semble composée qu'à d'oreilles. Comme les bossus qui rapportent toujours, comme mon ami qui allait rapporter. Il y a un cycle qui part de l'expérience commune, quotidienne, ou est-ce que celle de la rue où Sinis Gaï habite à son petit village et arrive à l'algèbre, revient en arrière. Je m'approche de la fin. Vous avez vu, Sinis Gaï m'a eu. La richesse de sa pensée ne me permet pas de la rattraper. Je suis presque à la moitié et je n'ai pas vu la pure chose. C'est pour ça que je vous fais grâce au détail. Je vous dis simplement que Sinis Gaï vit dans les dernières années de sa vie un certain désenchantement après cette saison magnifique. Il fait l'expérience un petit peu de la perte et de l'échec. C'est quelque chose qui arrive de manière très progressive. Sinis Gaï aura beaucoup de succès, encore travaillera pour des autres entreprises, mais son idée de la modernité, celle qu'on a cherché de déliner ensemble, vient perdre de l'émail. Je vous propose de lire un passage de La vieille vigne, Madame Klein, Ville ptolémaïque. C'est une récolte de 1962 dans laquelle Leonardo Sinis Gaï part de Naples.
Naples vient à se trouver penchée, excentrique oblique, on ne sait pas. Elle se résume à une image, la ville. Naples ne s'attrape ni par le ciel, ni par la terre. Combien de spectres laborieux, comme des poux ressuscités, tous légers, comme des morts. On se réveille parmi les ravins pierreux, parmi les fumées des fours, les vapeurs de vinaigre. On court après le fracas d'une trompette. Chaque geste est une pensée, la pensée de la marionnette qui se reflète dans l'éternité.
Sinis Gaï s'approche aussi du mythe littéraire et théâtral des Polichinelles, vous l'avez compris. Pour décrire Naples avec toutes ces fragilités qui sont les symboles de la fragilité de la vie humaine. C'est une récolte de 62 où Sinis Gaï mélange à nouveau la poésie et la prose en poursuivant ce programme de ne pas briser cette continuité entre les deux domaines. Il y a des autres récoltes qui signent l'accomplissement de la parabole de Sinis Gaï. En 1970, il écrit un recueil qui s'appelle « Il passero il lebroso »,« Les moineaux et les lépreux ». Et j'invite M. Blavard à nous en lire un passage.
Automne. Les mouches semblent heureuses de me voir. Elles traînent sur les branches des lunettes, elles sautent sur la pointe des oreilles. La feuille blanche les fascine. Je parle, je les caresse, les ramasse dans mon poing. Je les appelle par leur nom, Fantina, Filomena, Felicetta. Je veux croire qu'elles soient toujours les mêmes. Une qui se regarde dans l'ombre, les autres se cachent pour que je les retrouve. Et enfin, depuis les mouches en bouteille, repas d'adieu, nous parviennent les bruits de la vaisselle lavée après le repas d'adieu.
Vous voyez les thèmes du retour au village, de la solitude. Les poètes se trouvent seuls avec les mouches qui sont seuls complices. Et même cette image extrêmement dépouillée, vous l'avez vu, nous parvient les bruits de la vaisselle lavée après les repas d'adieu. Rien d'autre. Cette image de quelqu'un qui part et qui laisse les foyers et les bruits de la vaisselle comme témoignage du travail qui est nécessaire de faire quand même après le départ. J'ai fini, vraiment, parce que j'ai abusé de votre temps et votre courtoisie, avec trois lyriques depuis Oubliette, où les poètes ont donné un titre évocateur, s'il y en a un, du destin de son œuvre et de son rôle dans le monde.
Ta main écrasée dans le casier de la mémoire. Le rêve. J'arrivais dans le noir, chez moi, je cherchais le lit, à tâtons dans les chambres, longtemps restées désertes, il était enterré dans la poussière. Noms et choses. Les noms se sont détachés des choses. Je vois des objets, des gens, je ne me souviens plus des noms. À petit, pas le monde s'éloigne de nous. Les amis descendent dans les oubliettes.
Ces dernières récoltes de Sinsgall, il est de 1978. Il décédera, terrassé par un infarctus en 1981, après avoir inauguré quelques mois auparavant une galerie et avoir réalisé des expositions avec des dessins et des pastels qu'il faisait lui-même. Donc il a cherché jusqu'à la fin de sa vie l'activité, la recherche, l'invention, sans jamais se résilier aux coordonnées, aux définitions. En préface de ces récoltes que vous avez entendues, il écrit « La pauvreté des morceaux ici récoltés est trop évidente. Je ne peux même pas faire croire d'avoir monté qui sait quel possédé des distillations complexes et magiques. » On pourrait considérer qu'il y a une fine enfin un peu amère de sa vie. Sa femme décédera en 1972, si je me souviens bien, et il les laissera dans une situation de solitude et presque désespoir personnel dont il probablement ne sortira pas. Que pouvons-nous retenir de Leonardo Sinsgall dans cette époque où la technologie et la modernité dont il s'est fait les chantres paraissent nier la dignité de l'homme, paraissent l'écraser, paraissent vouloir dominer aussi son imaginaire. Eh bien, je pense que Sinsgall est intéressant parce qu'il nous dit que les poètes et la poésie, la littérature, ont la force, doivent avoir la force pour dominer la modernité, pour dominer la complexité du monde. Toute dans la vie humaine, toute connaissance, une dignité égale qui se perd et se dégrade si on la coupe en morceaux. Je vous laisse avec un des plus beaux mots de ces poètes. Je vous lirai en français, comme ça vous comprenez de quoi il s'agit. Je vous permettrai de vous les lire en italien, où les valeurs métriques et les assonances ont leur valeur. Nous sommes ici pour partager un héritage de peine. Ne brisons pas ce qui est entier. Il se réduit à rien. Siamo qui per dividerci un'eredità di stenti. Lo spezziamo quello che è intero. Diventa zero.
Merci beaucoup pour ce magnifique exposé, avec une telle foi et un tel dynamisme que notre seul regret, c'est de ne pas le connaître, mais maintenant nous connaissons un tout petit peu. Y a-t-il quelques questions? Oui.
Est-ce que le foulard mathématicus est traduit en français?
Alors, non, il n'était pas publié, mais je m'en charge en ce moment avec monsieur Jean-Yves Masson, qui a traduit beaucoup des poèmes de Sinsgall. Je le remercie d'ailleurs parce que beaucoup des, pratiquement la totalité des poèmes que vous avez entendus, dans la traduction de Jean-Yves Masson, il y a ces livres que je vous laisse lire. Mais le Forum Mathematicus s'attend encore d'être traduit. Et d'ailleurs, n'était pas traduit en aucune autre langue la complexité effectivement du texte et les nombreux renvois qu'il présente, pardon, et comporte une certainement une difficulté. Mais j'y travaille en ce moment.
C'est bien. D'accord. Et ça serait publié quand ?
Alors là, c'est plutôt l'éditeur, mais voilà. Mais c'est un processus d'élaboration complexe, j'espère, les prochaines années, l'année prochaine peut-être. Voilà.
Merci.
Merci à vous. Alors, juste, on va vous passer les microphones, comme ça, vous pourrez être entendu aussi à l'enregistrement. Oui,
on vous attend,
parce que c'est pour l'enregistrement.
Deux questions, une simple, peut-être un peu plus complexe. Est-ce que, si this guy a repris sur le commerce, Contacté, après ce que j'avais vu, Contacté, notamment le temps et ce qu'il a travaillé, sur les questions concernant le temps. Et ma seconde question, avec une puissance, on va dire, on pense à un mathématicien, Jacques Adama, qui avait écrit un livre qui s'intitulait L'intuition mathématique. Il se demandait comment quelques neurones dans son cerveau avaient choisi de résoudre une équation de. Prendre une identité remarquable, prendre de passer en puissance ou en cause, pourquoi le cerveau, ton cerveau, arrivait-il à choisir ceci plutôt que cela? Est-ce que, donc, c'est mis Gali qui va intéresser aussi à cette question?
Alors, et effectivement, il y a une première question sur Luigi Fantapié qui était l'un des maîtres de Sinis Gali. C'est très intéressant. Je n'aurais pas osé en parler s'il n'y avait pas la question, donc je suis très content. Fantapié, c'était un mathématicien brillant qui a s'occupé à développer une théorie particulière, c'est de fonctionnel analytique. Ça, ce n'est pas d'intérêt pour nous. Une chose, par contre, a de l'intérêt. C'est que ce mathématicien, il est adhéré de manière presque, je dirais, aveugle et inconditionnelle au fascisme, au point de rentrer en conflit avec l'un de ses plus grands maîtres, Vito Volterra, qui était, dont la famille était de confession juive, et donc qu'il a eu. Déjà, il a refusé les serments de fidélité au fascisme, c'est le mathématicien Volterra, et après, il a été complètement émarginé avec les lois racistes italiennes. Fantapié, peut-être par cet aveuglement, élabore tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, et je viens à votre question, une théorie qui appelle celle de la syntropie. En physique, il y a une grandeur qui s'appelle l'entropie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, qui décrit l'effet de la dégradation progressive des organismes. J'ai vieilli, la porte grince de plus en plus, les frigos que ça ouvrait librement, les fait avec un certain. Tout cela, c'est la manifestation du fait que la flèche du temps se déroule dans une seule direction et qu'on va vers la perte, l'oubli, la ruine. Fantapié, l'un des maîtres de Sinis Gali, élabore une théorie mathématique et physique dans laquelle cette sorte, cette pente inévitable des phénomènes peut être renversée, peut être considérée à rebours. Et c'est la théorie de la syntropie. C'est une théorie qui n'a eu aucune suite d'un point de vue physique, c'est-à-dire elle n'a pas eu de succès, c'était une théorie qui n'a pas eu aucun développement. Mais elle est intéressante, et Sinis Gali en parle, c'est pour ça qu'on s'y arrête un peu, justement dans Furor Mathematicus, car il la voit d'un point de vue poétique. Sinis Gali a une culture très raffinée, tant d'un point de vue scientifique et littéraire, pour croire vraiment à la théorie de Fantapié. Mais il dit, voilà, les mathématiques peuvent nous sauver, la connaissance du monde peuvent nous sauver de la ruine et de la mort. À quoi pense-t-il aussi Sinis Gali? Pense à la poésie comme rempart contre la mort. Sinis Gali, né de la même région, la Basilicate, où est né le grand poète latin Horace, qui dit à un moment donné « Exegi monumentum aere perennius ». J'ai bâti un monument plus durable que le bronze. C'est la poésie. L'homme périt, mais l'œuvre reste. La parole fragile, elle est en réalité plus indestructible de l'acier, parce qu'elle n'est pas assujettie à la matière. En ce sens-là, il s'intéresse à Fantapié et lui dédie un article dans Furor Mathematicus sur la syntropie. Il dit à la fin, la ruine du monde est de là, elle est loin d'arriver, quelque chose comme ça. Par rapport à la question d'Adamar, alors il ne s'intéresse pas à l'aspect physiologique, cognitif des deux raisonnements mathématiques. En revanche, il réfléchit au mécanisme décrit dans la Liste de l'Élément, qui est l'un des premiers ordinateurs qu'il baptise lui Adam II, qui est capable de simuler certains aspects logiques du raisonnement humain. Voilà, j'espère d'avoir répondu à votre question.
Peut-être de mon côté, une petite question par rapport, on avait parlé un peu de Mallarmé, de poésie, mais faire un petit son, ses rapports avec Mallarmé par exemple.
Alors, effectivement, Sinis Galli s'intéresse beaucoup aux poètes français. Vous avez vu, il va à la librairie et une feuillette et lit les surréalistes. Et il a écrit, Mallarmé revient plusieurs fois dans son œuvre, notamment, j'ai repêché un passage de Sinis Galli, où il se concentre sur les particularités techniques de Mallarmé. Je vous allais juste deux extraits pour voir les niveaux de finesse. Il y a déjà une chose importante, je l'ai évoqué, pour Sinis Galli comme pour Ungaretti, la leçon fondamentale de Mallarmé est celle de l'évocation poétique. La poésie ne peut pas être immédiatement explicite. La poésie contient un secret, une signification qu'il faut aller rechercher. Elle ne meurt pas de l'instant où elle est dite, la poésie. C'est une recherche, elle est toujours vivante. Pour faire un exemple, via effectivement Ungaretti avait appris depuis le français, et spécialement de Mallarmé, excuse-moi, je traduis à la volée, Leopardi et Petrarca arrivèrent après, mais il fait moins bénéfique, il est disciplinaire, ne l'exaltère pas. Ungaretti apprit de Mallarmé certaines nuances qui eurent tout de suite une bonne réussite. L'insertion de l'italique, c'est-à-dire d'une voix intérieure, un alternatif au caractère droit de la première personne, la fragmentation, les brisements d'un vers en deux ou trois fragments disposés en escalier, et donc la fonction double de revenir à la ligne, comme clôture et comme hésitation. Je vous lis vraiment comme ça. Et le monument à cette prosodie acrobatique, car il s'agit vraiment de vol dans l'espace de la page, et les poèmes de Mallarmé, un coup de dés, ne jamais n'abolira les hasards. Un inventaire des plus dangereux exercices de la haute colle, comme pourraient être ceux des aviateurs dans les champs d'Aldelgrove en 1952, où on toucha les 1000 km à l'heure. On voit toujours, il parle de la poésie, mais tout de suite il met les défis industriels et technologiques. Mallarmé avait commencé il y a 20 ans avant avec l'après-midi d'un faune, expérimenté des grandes innovations, l'alternance des voix, les pauses internes au vers, on en a parlé tout à l'heure, la concentration et l'éparpillement du flux sonore, ce qu'il appellera les facettes des idées. Dans des termes presque césaniens, sinon véritablement cubistes. Il avait déjà mesuré les effets de la segmentation du vers et du décalage, mais il avait sauvé la régularité de l'entonnoir, et ainsi de suite. Donc vous voyez, les poètes sont très présents, les poètes français, les Mallarmé et après aussi les surréalistes. Vous voyez aussi les niveaux de finesse qu'il a de la connaissance de ses poètes. Il arrive à dénicher des détails et à citer des éléments qui témoignent d'une connaissance très forte et très, très détaillée de ses auteurs. C'était un peu long, mais non. Merci à vous tous pour votre disponibilité. Attention, c'est un auteur qui n'est pas facile à suivre, mais qui nous invite à la rattraper. Et c'est comme un enfant qui court loin et dit « Attrape-moi si tu es capable ». Je vous invite à suivre cette provocation.